France Inter.
Journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour à tous. 20 ans après l'interdiction des signes religieux à l'école, une loi appliquée mais pas toujours comprise, en particulier par les nouvelles générations. Parole de lycéennes concernées en ce jour anniversaire. Nous serons aussi dans l'est de l'Ukraine, occupée par la Russie, où les habitants sont très fortement incités à voter pour la présidentielle russe jusqu'à dimanche, vers un nouveau plébiscite pour Vladimir Poutine. Dans ce journal aussi, entre djihadisme et nazisme, deux jeunes jugés à Paris pour terrorisme, le hip-hop davantage encadré, colère des pratiquants, et le PSG fixé sur son sort ce midi en Ligue des Champions.
Et à 8h moins le quart sur France Inter, intelligence artificielle dans le débat éco, l'IA sera-t-elle positive pour la croissance et l'emploi, comme l'affirme un rapport remis cette semaine à l'exécutif? Question posée à Thomas Porcher et Dominique Seux.
France Inter. À l'époque, c'est le président Chirac lui-même qui l'avait annoncé.
Oui, signe de l'importance de l'enjeu, décembre 2003, salle des fêtes de l'Élysée.
J'estime que le port de tenues ou de signes qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics.
Trois mois plus tard, 15 mars 2004, la loi est promulguée. Cela fait donc 20 ans, jour pour jour, qu'on ne peut plus entrer dans un établissement scolaire avec un voile, une kippa ou une croix trop visible. Et si ce texte est depuis appliqué et respecté sans trop de difficultés, ce n'est pas pour autant que le principe de laïcité est lui toujours compris et accepté. Le Premier ministre estime même qu'il est plus que jamais menacé. Les études récentes montrent que les jeunes y sont un peu moins favorables que leurs aînés. Chloé Geoffroy l'a vérifié devant un lycée de Saint-Denis.
Le premier réflexe de Fatoumata à la sortie du lycée, c'est de remettre son voile avant d'aller manger avec ses copines. Un voile qu'elle aimerait pouvoir porter en classe. Elle avoue ne pas se sentir complètement libre à cause de cette loi de 2004 sur la laïcité.
Si tout le monde vit un petit peu comme il a envie de vivre et que tout le monde porte ce qu'il a envie de porter, dans la limite du raisonnable, parce qu'on est quand même dans un lycée et ça appartient à l'État, ben je trouve qu'il n'y a pas de problème en fait. Après, si ça dérange vraiment des gens, moi je suis venue ici pour étudier, pour faire ma vie scolaire. Je ne suis pas venue ici pour montrer quoi que ce soit.
Émilie non plus ne comprend pas l'intérêt de la loi.
La religion d'une personne fait partie de son identité. Donc retirer une partie de l'identité d'une personne pour pouvoir venir s'éduquer, je trouve ça moyen.
De l'incompréhension, mais pas forcément de contestation, selon Hakim qui enseigne au lycée Paul-Éluard.
On a plus de mal à enlever les casquettes et les choses qui n'ont rien à voir de religieux. La loi, elle est appliquée. Il y a toujours un ou deux qui dérogent un peu à la loi, mais vite rappelés à l'ordre, donc ils se soumettent.
Et dans les chiffres, ça se confirme. Les signalements pour port de signes et de tenues religieuses ont drastiquement baissé. Des faits qualifiés d'ultra-minoritaires même par le ministère de l'Éducation nationale.
Chloé Geoffroy en Seine-Saint-Denis pour Inter. Il a parlé tant aux Français qu'à ses opposants et aux autres Européens. Emmanuel Macron hier soir à la télé pour prévenir. La Russie ne doit pas gagner la guerre en Ukraine. Si la situation devait se dégrader, nous devons être prêts, dit le chef de l'État, comme pour justifier ses précédentes déclarations sur l'envoi éventuel de troupes qui n'est plus exclu. Mais en même temps, le président l'assure, jamais la France ne mènera l'offensive, jamais elle ne prendra l'initiative. Alors comment tout ça sera-t-il reçu aujourd'hui à Berlin, où Emmanuel Macron est attendu pour un sommet avec le chancelier Scholz et le polonais Tusk? L'idée est d'apaiser les tensions du couple franco-allemand sur cette stratégie en Ukraine face à la Russie. La Russie où a commencé cette nuit l'élection présidentielle, sans suspense suspense ni opposition, trois jours de scrutin sur 11 fuseaux horaires. Et à la fin, c'est Vladimir Poutine qui gagnera. Il est assuré de décrocher un cinquième mandat et donc de battre le record de longévité de Staline à la tête du pays. Moscou tient aussi au plébiscite dans les territoires ukrainiens occupés où sont également installées des urnes. France Inter à Kiev, Camille Magnard.
Dans plusieurs secteurs occupés par la Russie, l'élection présidentielle a déjà commencé fin février, assure Oleksandr Tolokonikov. Il est le porte-parole de la région ukrainienne de Kherson, dont plus de la moitié est sous occupation.
Les Russes sont arrivés au centre des villages, ils ont installé des urnes, ils ont fait voter les collabos, les fonctionnaires et les retraités. Le deuxième jour, il n'y avait plus personne. Alors ils ont pris les urnes et ont commencé à aller chez les gens, accompagnés par des hommes armés. Ils entraient dans chaque maison et proposaient aux gens de voter.
Sous la menace des armes russes, les habitants des régions occupées n'ont pas d'autre choix que de participer à ce simulacre d'élection, reconnaît-on à Kiev. Mais ceux qui collaborent à l'organisation du scrutin seront considérés montrés comme des traîtres, prévient le colonel Andriy Tcherniak du renseignement militaire ukrainien.
Le Kremlin a donné l'ordre que le scrutin se termine sur un score de 75 à 80% en faveur de Poutine. On sait aussi que les collabos ukrainiens ont décidé d'aller au-delà de ce score et de faire en sorte que le soutien à Poutine atteigne 85 à 90%.
Pour sécuriser cette élection écrite à l'avance, Moscou a dépêché dans les régions occupées des milliers d'agents de ses forces de sécurité. Mais à Kiev, le colonel Tcherniak compte tout de même sur des groupes de résistants de l'intérieur pour tenter de faire dérailler le scrutin.
Camille Magnard, correspondant d'Inter en Ukraine. À 10 jours de la présidentielle au Sénégal, des scènes de liesse cette nuit à Dakar, à l'annonce de la libération d'Ousmane Sonko, l'emblématique opposant au président Macky Sall. Il vient de sortir de prison, tout comme son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, candidat à cette élection du 24 mars. Sur place pour Inter, Théa Olivier.
Plusieurs centaines de sympathisants se sont agglutinés devant la maison d'Ousmane Sonko. Abid Diaw est venu exprimer sa joie de le voir libéré.
Ousmane Sonko est l'espoir du Sénégal. On attend du changement. Il faut que notre pays se développe.
Les sympathisants ont chanté des slogans toute la nuit en hommage à Ousmane Sonko. Sa candidature à la présidentielle avait été rejetée pour des raisons judiciaires. Il avait donc choisi son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, pour le remplacer. Lui aussi en détention, il a été libéré en même temps que son leader, se réjouit un militant, Diogo Diouf.
Je suis trop content. Et ça veut dire que c'est la victoire. En fait, Diomaye va gagner les élections et le pays va changer.
Il ne reste plus que 7 jours aux candidats pour faire campagne à cause d'un calendrier électoral raccourci par le report du scrutin prévu en février. Mais Matar Seck, président d'un mouvement de soutien Ousmane Sonko, n'est pas inquiet pour la suite.
Quand on nous parlait de sa sortie, on était en caravane, on sillonnait le pays, donc on est revenu pour l'accueillir. Et demain, on ira encore en caravane.
La loi d'amnistie votée la semaine dernière a permis la libération des deux opposants. À Dakar, Théa Olivier, France Inter.
Que s'est-il passé cette nuit lors d'une distribution de farine dans le nord de la bande de Gaza? Le Hamas accuse l'armée israélienne d'avoir tiré sur la foule qui attendait l'aide alimentaire et parle d'au moins 20 morts. Israël dément avoir ouvert le feu sur les civils et dit, je cite, « analyser l'incident avec sérieux ».
Retour en France, Alexis. Très curieux et inquiétant profil devant le tribunal correctionnel de Paris.
Et ces deux jeunes qui comparaissent pour terrorisme, soupçonnés d'avoir voulu préparer des attentats. Ils ont été interpellés en 2021. Leur idéologie oscillait entre djihadisme et nazisme. Parmi eux, Leïla, 18 ans lors de son arrestation. Des propos ultra-violents et une vie de misère. Attention d'ailleurs, le récit qui va suivre peut choquer. Charlotte Piret.
Son visage n'est pas encore départi des rondeurs de l'enfance, son regard déjà désabusé. Lorsque les policiers interpellent Leïla, 18 ans, ils découvrent l'appartement familial rempli de sacs poubelles, des asticots dans les assiettes, des excréments au sol, énumère la présidente. Vous vous rendiez compte que c'était totalement anormal? La prévenue fait non de la tête. Sa réponse à la majorité des questions. Vous aviez des marques d'affection de votre mère? Non. Elle-même n'exprime jamais aucun affect, conclut d'ailleurs à son sujet l'expert psychiatre. En guise de photo sur sa table de nuit, la tête décapitée de Samuel Paty, dans des sacs, de quoi fabriquer des explosifs, sur son téléphone, des vidéos de décapitation. Vous avez dit que vous aimiez ça, relève la présidente. Déscolarisée, Leïla en regarde toute la journée, discute sur internet avec des djihadistes ou des nazis, pour elle peu importe, et noircit des cahiers où se mêlent là aussi croix gammée, symbole de Daesh et rage mortifère. J'ai tellement envie de tuer un truc de malade, vous méritez tous de mourir. Pourquoi vous écrivez ça, interroge la présidente. La prévenue ne sait pas. Dans son expertise, la psychiatre parle encore de vide et d'une personnalité inquiétante.
Le procès s'achève ce soir, les prévenus encourent 10 ans de prison. C'est une pratique qu'on croyait révolue, d'une autre époque. Une boîte de nuit toulousaine veut organiser le mois prochain un combat de nains, pour reprendre les termes des organisateurs. Juridiquement, en France, rien ne l'empêche, aucune loi pour l'interdire, c'est aux municipalités d'agir. Ce qui scandalise ce matin l'association des personnes de petite taille, qui a saisi d'ailleurs la mairie de Toulouse, sa présidente Violette Vianney.
En réalité, ces activités, elles ont jamais réellement cessé. Et la difficulté réside dans le fait qu'il n'y a aucune réelle disposition juridique qui rend ces pratiques illicites. Parce que si nous, on le signale pas, en l'occurrence à la mairie de Toulouse, bah ces activités, elles ont lieu, puisqu'elles sont pénalement pas répréhensibles. En Espagne, ça a été fait. Ils ont fait voter une loi au Parlement qui interdit les spectacles récréatifs avec des personnes en situation de handicap et spécifiquement des personnes de petite taille. Donc moi, j'aimerais qu'on inscrive réellement, une bonne fois pour toutes, le principe de la dignité humaine dans la loi et que ça soit pénalement répréhensible.
Violette Vianney de l'Association des personnes de petite taille. L'Assemblée ne revient pas sur le non-cumul des mandats. Le groupe Horizon n'a pas réussi à faire adopter sa proposition de loi, pas par manque de voix. Le texte semblait même en passe d'être voté hier soir, mais il fallait qu'il le soit avant minuit. C'est la règle pour les niches parlementaires. Et la discussion s'est éternisée à coups d'amendements et de rappels au règlement venant des rangs de la gauche. Les députés Horizon dénoncent une obstruction. L'Assemblée, qui en revanche, il y a quelques jours, a décidé d'encadrer pour la première fois la pratique du hip-hop en votant la création d'un diplôme d'État. Une nouveauté, Laurent Kramer, qui est loin de faire l'unanimité.
Est-il vraiment nécessaire d'avoir le bac pour enseigner le hip-hop dans cette école de danse ? À Ivry-sur-Seine, Fatou Terra, la directrice du studio Émergé, s'inquiète pour ses 35 professeurs en activité.
Aujourd'hui, on ne sait pas sous quels critères le diplôme va être délivré. Est-ce que ça veut dire que les personnes qui n'ont pas leur bac, mais qui sont de très bons danseurs, de très bons chorégraphes, ne pourront pas passer leur diplôme non plus ? Est-ce qu'on peut m'expliquer ? Je trouve ça très irrespectueux, d'autant qu'on ne nous a pas concertés.
Un diplôme d'État, bac plus 3, qui laissera beaucoup trop de monde sur le bord de la route. Un contresens mortel pour la culture hip-hop, s'inquiète le chorégraphe Fabrizi, à l'origine d'une pétition contre la réforme.
Un diplôme met un plafond de verre à tous ces jeunes. Aucun danseur hip-hop danse de la même façon. Et aujourd'hui, de mettre un diplôme sur nos différences, c'est ce que j'appelle tuer la culture hip-hop. En voulant donner un cadre, on tuera l'essence du hip-hop, chose qui a déjà un peu été faite avec d'autres danses qui sont devenues académiques aujourd'hui. Et nous, personnellement, on ne dit pas non au conservatoire, on dit juste non au diplôme d'État.
Un diplôme d'État avec de nouveaux droits, comme celui d'enseigner le hip-hop dans les conservatoires, réservés aujourd'hui aux professeurs de danse jazz, contemporaine et classique.
Laurent Kramer.
Alexis, en foot, l'OM est passé tout près hier soir d'une catastrophe en Ligue Europa.
Oui, défaite 3-1 en 8e retour sur la pelouse de Villarreal, mais le succès du match aller 4-0 permet aux Marseillais de se qualifier tout de même. Ils connaîtront dès aujourd'hui leur adversaire des quarts lors du tirage au sort au siège de l'UEFA. Idem pour le PSG en Ligue des Champions. Qui pour affronter Paris au prochain tour ? Réponse à midi, Nicolas Perronnet.
Pas besoin de chercher bien loin les épouvantails. Sur ce tirage, tout le monde est unanime.
Real ou City, je pense.
Alors, il faut surtout éviter le Real Madrid et Manchester City.
Le tenant du titre, Manchester City, le Real Madrid, 14 fois vainqueur de la compétition. Deux équipes que le PSG a déjà affrontées, mais jamais éliminées en Ligue des Champions. Impératif de les éviter pour ses supporters qui espèrent, comme en huitième de finale avec la Real Sociedad, tirer le meilleur lot d'écart.
Le meilleur tirage, ce serait Dortmund.
Un Dortmund, ça serait pas mal. Vraiment, Dortmund, ce serait bien. S'il vous plaît.
Le Borussia Dortmund, clairement sur le papier la meilleure pioche, mais l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, ne veut froisser personne.
Je ne vais pas donner mes préférences, mais une chose est sûre, aucun de nos adversaires potentiels ne veut tirer le PSG. Aucun, ça j'en suis certain, nous sommes excités à l'idée de jouer ces cartes.
Le tirage de la nouveauté ne serait pas le plus simple, mais il aurait le mérite d'éviter de ressasser l'histoire. Des 7 adversaires possibles, l'Atlético Madrid est le seul que le PSG n'a jamais affronté en Ligue des Champions.
Et pour être tout à fait complet et ne pas vexer surtout nos auditeurs nordistes, non. Sachez que Lille s'est qualifiée pour la toute première fois pour des quarts de finale d'un tournoi européen, au détriment hier soir des Autrichiens de Grasse en Ligue Europa Conférence.
C'était le journal d'Alexis Morel. À suivre, les gagnants et perdants de la journée politique d'hier dans l'édito politique.